Question s'adressant aux médias sociaux. Docteur
Ben,
Pesin,
ben peut-être une sur les médias sociaux. Si j'ai bien compris, c'est que même quand c'est écrit privé, confidentiel, tu peux pas te fier à ça. C'est épouvantable. Une deuxième, très vite, là. Si je comprends bien aussi, il n'y a pas de limite à la conservation, à la durée de la conservation des informations qu'on met là-dessus.
Bien, c'est plus difficilement difficile de cerner ça, parce qu'en fait, ça peut partir de tout bord, de tout côté, dépendamment des politiques d'accès, justement, des sites qui sont utilisés. Donc,
alors, quand tu pianotes là-dessus, tu parles à la planète. Hein, c'est, ouais. C'est correct, j'ai compris. C'est, okay. Je comprends que ça fait le tour de la planète. On applique une loi fédérale.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que les activités qui ont lieu ici... Les activités qui ont lieu sur le sol canadien, OK, ouais. Les entreprises qui ont un siège social ici, quand les activités se déroulent en deux provinces, OK, donc c'est la loi fédérale qui s'applique. Mm-hmm. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a quand même des paramètres. Il restera à tester cette fameuse loi à un moment donné devant les tribunaux, mais ce n'est pas comme dire c'est un open bar et ils peuvent faire n'importe quoi. C'est ça que je voulais juste dire.
Ça me rassure un peu. Merci. C'est bon. On vient au micro, Simon. Oui, ta perruque.
Elle est enlevée. Concernant, au nettoyage. Concernant les politiques de conservation, c'est les sites Internet, par exemple, Facebook, qui ont leur propre politique, etc. Fait que déjà, eux, peut-être qu'il y a certains sites qui prévoient la destruction à certains moments. Mais aussi, c'est qu'une fois que c'est en ligne, peut-être que moi, comme là, j'ai fait une capture d'écran d'un des sites. Puis, je veux dire, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui, dans leur ordinateur, vont avoir conservé ça aussi. Là, fait qu'à un moment donné, c'est... difficile d'avoir le contrôle sur...
Question pour le ministère de la Santé, à nouveau. Ouais. Monsieur le docteur Pesin.
J'ai déjà fait des remarques lors d'une rencontre qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Et puis, je vais vous refaire quelques devant cette audience ici. Vous savez, vous avez une responsabilité de succès dans ces nouvelles applications, qui sont un peu un rouleau compresseur. Je vois ça comme les papeteries qui ferment un peu partout dans la province parce qu'on est rendu sur Internet, nos comités d'éthique, ou des gens de la dignité, on parlait de dignité humaine, les gens sur les comités d'éthique qui sont formés, qui sont là depuis des années et qui ont donné beaucoup de leur temps. Maintenant vont être relégués à des fonctions qui vont être vraiment un peu de l'expectative ou de spectateur. Et il y a beaucoup de craintes, je peux vous dire. Moi, je suis pas sur un comité d'éthique, par contre, j'y étais souvent. J'ai vu que vous aviez certaines modalités, mais je pense que quand on a un projet aussi important, il faudrait être capable de donner à la communauté scientifique. Les chercheurs ont été sûrement consultés, j'ai pas vu beaucoup de cet aspect-là. Mais donner à tout le monde pourquoi ce projet du ministère est si porteur. Alors, quels sont les avantages d'avoir un comité central, que vous soyez capable de décrire, que vous soyez capable de rassurer tout le monde de la population scientifique, et de dire, bien, un comité évaluateur aura le mandat d'évaluer avec une structure légale, et etc., on parlait des biobanques et choses comme ça. Parfait. Personne n'est contre l'évolution. Par contre, en nous rassurant qu'un comité évaluateur va être capable de remplir la commande. Autrement dit, nous, comme chercheurs, on rentre des patients, on a besoin d'un consentement éclairé. Si je l'ai dans 3 semaines ou 1 mois, c'est parfait. Par contre, si je l'ai pas, puis je l'ai 6 mois après les pays sur la planète avec lesquels on est en compétition, Donc, ce qui va arriver, c'est tous les emplois des infirmières, des membres qui sont associés à la recherche, ça va décliner. Donc, moi, je suis pas pessimiste, je suis très ouvert à l'évolution, mais il faut que vous soyez conscient que vous avez vous avez le devoir de succès. Être capable de donner au comité évaluateur une souplesse qui va lui permettre de négocier avec les commanditaires des consentements éclairés adaptés. Et cet aspect-là, je le vois pas dans vous nous présentez l'application. Mais c'est quoi les avantages que vous voyez, cette application qui va se faire avec les années et qui va, parce que je vois le ministère avec les CER, les chercheurs, le comité scientifique comme un partenariat où justement, avec une bonne présentation aux commanditaires qui sont mondiaux, être capable d'attirer la recherche au Québec pour que justement ça soit prolifique. Donc oui, à vos modalités, mais quels sont les avantages et comment vous vous engagez à aller suivre cette application et s'assurer que les comités évaluateurs ne soient pas noyés avec de multitudes de projets multicentriques, parce que ce qui va arriver, c'est qu'en périphérie ou les autres comités d'éthique, il va y avoir une attrition, une diminution de compétences et une incapacité à être évaluateur et les comités centraux ou un peu plus habitués à ça, vont être noyés de... Alors, je vous souligne les craintes des comités d'éthique qui sont existants actuellement, les craintes des chercheurs, et vous avez l'obligation du ministère de nous donner un côté positif et de nous assurer que vous allez faire un suivi serré de tous ces aspects-là. C'est ce que je voulais vous dire.
Le micro marche, oui. Okay. Écoutez, quelques éléments de réponse. D'abord, sur les exigences en termes de délai au niveau des comités d'éthique évaluateurs, on donne jusqu'au 31 mars 2015 pour s'ajuster, mais il y a des délais prescrits dans le cadre de référence. Donc, le comité d'éthique qui décide de retenir, d'évaluer le projet, doit le faire dans des délais qui sont rapides, justement pour s'assurer qu'on ne retarde pas le recrutement de patients ou des projets de recherche qu'on voudrait voir se dérouler au Québec. C'est un des motifs pour lesquels, entre autres, on veut... On essaie d'avoir un mécanisme qui est plus efficace. Donc, il y aura des exigences en termes dans le cadre de référence. C'est un projet aussi qui a été présenté, au regroupement Éric Cédé, donc à l'industrie, et qu'ils ont vu avec beaucoup, qu'ils ont pris avec beaucoup d'intérêt. Ils sont très contents que le ministère aille dans cette optique-là, donc avec une seule évaluation éthique par projet. La question du financement, justement pour le maintien de l'expertise, on sait très bien que le financement des comités d'éthique, c'est quelque chose d'important. On sait également que les comités d'éthique évaluateurs vont avoir un rôle important, plus important également maintenant. Donc, la réflexion entourant le financement des comités d'éthique, c'est tant les comités d'éthique locaux qui restent et qui sont là encore pour évaluer les projets monocentrique de leur établissement, mais c'est aussi sur le financement des comités d'éthique évaluateurs qui auront un rôle plus grand et plus imposant qu'actuellement, peut-être, actuellement. Financement, c'est ça. Du coup, c'est sûr qu'on met en place un suivi de ces implantations-là avec un bilan. On veut également avoir une période de rodage, donc avoir un certain nombre de projets ciblés, des cas-types qu'on peut suivre de façon plus spécifique pour s'assurer que ça donne vraiment les résultats puisque c'est efficace. Et si ça accroche à quelque part, on sera en mesure d'intervenir. On a déjà commencé une réflexion pour... je dirais, opérationnaliser dans un cadre peut-être plus spécifique d'un établissement de santé, comment ces étapes-là peuvent se dérouler et en combien de temps on est capable de sortir une évaluation, une autorisation globale du projet, donc autant éthique, convenance que scientifique. Et je pense qu'on arrive avec des délais, je pense que les établissements vont même être capables de faire ça à l'intérieur, en deçà des exigences que le ministère a posées dans le cadre de référence. Donc, on est à travailler sur une démonstration avec quelques établissements actuellement et on pourra vous faire connaître. L'analyse n'est pas terminée, mais on pourra vous faire connaître ça. Donc, c'est justement pour répondre à la question des chercheurs ou à faire la préoccupation des chercheurs et de l'industrie. Qu'est-ce que ça va donner, ce nouveau mécanisme-là? Est-ce que ça va être plus efficace? Est-ce qu'on va être capable d'avoir quelque chose de plus rapide. Et là, je dis pas que c'est les comités d'éthique qui sont pas nécessairement rapides. On sait que la question des formulaires de consentement, c'est un enjeu aussi important qui me gruge énormément de délais liés à l'autorisation des projets. Et ça, de ce côté-là, il y a le comité avec le FRQS et le ministère pour voir comment on peut améliorer cet aspect-là. Si tu veux compléter, Nathalie, Jeanne.
Juste un dernier élément là-dessus, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments dans votre question, mais sur le formulaire de consentement, ceux qui sont dans le domaine depuis plusieurs années savent qu'il y a déjà eu des efforts importants de consacrer pour en arriver à un formulaire de consentement type. Alors, peut-être juste vraiment préciser encore une fois là, que ce sont les clauses plus à portée juridique qui semblent encore une fois et toujours à choper. Alors, c'est vraiment sur ces éléments-là que le groupe de travail qui va être mis en place va concentrer ses efforts.
Et peut-être pour avoir aussi du poids à ce niveau-là, c'est que ces résultats-là, s'il y a des clauses types qui doivent accompagner les formulaires de consentement, le ministère, on va le mettre également sur le site web et on va l'annoncer comme étant une exigence pour faire de la recherche au Québec. Ce sont des exigences qui doivent être associées aux formulaires de consentement.
Mais Giroux?
Oui. Il me vient beaucoup de choses à l'esprit, évidemment, parce que c'est une initiative importante. Mais je pense que ce qui me vient à l'esprit le plus fortement, c'est « enfin ». Je le dis par contre avec certains bémols. La chose moins intéressante, c'est pour les gens qui sont ici, des collègues aussi, par rapport à leur place dans l'univers de l'éthique, de la recherche en termes professionnels. Il y a des gens qui sont préoccupés, à juste titre probablement, puis ça c'est moins intéressant. Un autre aspect où il faudrait être très, très attentif, c'est que l'initiative vient de l'entreprise pharmaceutique, ça va, puis on peut comprendre leur point de vue du côté des chercheurs aussi, mais jamais, jamais, absolument jamais perdre de vue l'intégrité du travail des comités d'éthique. Ça, c'est quelque chose qui est infiniment important. Depuis le temps qu'on discute de ça, j'ai un dada, moi, c'est les projets pilotes. Vous le savez, je répète toujours ça. C'est l'idée d'être sensible avec ce qui se passe dans la réalité. Il y a des choses qui sont rassurantes. Il y a le travail qui a été fait par Paul Savignac d'aller voir un peu ce qui se passe dans le concret. Ça, c'est rassurant. Ensuite, que vous ayez été attentive à ce qu'on vous a dit dans le réseau de santé respiratoire, les commentaires pour les biobanques, bien évidemment, on est très heureux de ça. L'idée, ça va de... En tout cas, ce serait tellement gentil de nous dire on va continuer d'être attentif, peut-être le répéter, vous l'avez dit, mais d'être attentif à ce qui se passe sur le terrain, parce que the devil is in the detail. Les diapositives, on n'a pas eu le temps de les lire au détail, là, bien sûr, mais si il y a des choses dans l'observation que vous faites qui sont pas adéquates, il ne faudrait pas hésiter à modifier ça plutôt rapidement ou à donner des indications au comité, laisser faire cet aspect-là, puis avancer un peu autrement. Il faut le faire comme ça, il ne faut pas que les gens soient coincés, puis il faut que le travail puisse continuer de se faire de façon adéquate. Mais encore une fois, ce que je trouve de plus dommage, c'est pour les collègues qui sont en éthique de la recherche, pour qui peut-être ça représente un inconvénient, peut-être important de ce point de vue professionnel, puis en même temps, mon « enfin » se crie du cœur depuis 20 ans, quelque chose comme ça. Merci beaucoup.
Peut-être ajouter, en fait, à ce que tu dis, Michel, je pense que dans la démarche dont on vous parle aujourd'hui, il y a des choses qui sont bien différentes par rapport à ce qui a été fait, avant. Et ça ne remet pas en question la valeur de l'initiative, mais on a souhaité rapidement discuter avec, s'adjoindre des partenaires, s'adjoindre des gens qui sont vraiment impliqués dans le dossier, avec le FRQS, avec les RUIS également, qui ont développé, si on veut, tout cet intérêt pour le secteur de la recherche. Il y a de nombreuses consultations qui ont été faites en cours de route, plusieurs activités d'information aussi. Il va y en avoir encore. La semaine prochaine, il y a 4 activités organisées avec les RUIS pour rejoindre les gens de la communauté. Et il va y avoir vraiment un souci de monitorer, au fond, bien davantage peut-être qu'on l'avait fait au cours des années passées. monitorer, au fond, les qualités, mais aussi les petits défauts là, qu'on va trouver, parce qu'il y en aura, pour apporter des correctifs en continu. Puis on va avoir nous avons une volonté que ce soit fait de façon transparente. Donc, Manon parlait d'un registre. Donc, ce registre-là, si on peut le transformer rapidement en questions-réponses au bénéfice de tout le monde, je pense que ça peut être un atout aussi. Alors,
S'attendait à ce que ce sujet, cette conférence-là, suscite beaucoup de questions. Il est midi 15, je ne sais pas, le comité organisateur, est-ce que vous voulez continuer et qu'on...